Alors, les questions de logement pour les personnes cérébro-lésées sont aujourd'hui cruciales et on l'a déjà évoqué tout à l'heure. Et il faut bien reconnaître qu'aujourd'hui, les offres de logement adaptées pour ces personnes sont bien limitées et je ne vous apprendrai rien en disant que les ressources financières des pouvoirs publics sont ce qu'ils sont. Et donc, on s'entend souvent dire qu'il n'y a pas d'argent et qu'il faut se débrouiller autrement. Alors, pour parler de ces questions, on a invité Mme Paul Cornu et M. Ruche. Alors, Mme Bernadette Paul Cornu est co-dirigeante de Famille Solidaire à Mulhouse et après de nombreuses années de carrière dans l'industrie automobile, elle est arrivée dans le champ médico-social via la réalisation d'un certificat d'aptitude à la fonction de directeur d'établissement médico-social et d'un diplôme en gérontologie. C'est bien ça. Et grâce à son expérience en France et en Allemagne, elle s'est spécialisée dans des solutions innovantes d'habitat pour personnes âgées ou en situation de handicap, offrant une alternative à l'institution. Quant à M. Ruge, j'ai eu l'occasion avec des collègues de le rencontrer à Strasbourg il y a quelques années, lorsqu'il était encore président de l'UNEFTC, et nous avons pu visiter des logements communautaires pour personnes cérébro-lésées. Par ailleurs, nous avons eu le plaisir de participer fin 2016, également à Strasbourg, aux journées de l'habitat partagé et accompagné, dont M. Ruche était une cheville ouvrière, et où furent présentés de nombreux modèles innovants d'habitat à destination des personnes handicapées et âgées. Co-dirigeant de Famille Solidaire lui-même, concerné par ces problématiques à titre personnel, il a édité un livre, Les aidants familiaux pour les nuls. Je ne sais pas si vous en avez des exemplaires, voilà. Donc, il y a la référence dans la petite farte. Je vous passe la parole. Quelle est cette troisième voie d'habitat partagée et accompagnée pour les personnes cérébro-lésées et leurs aidants?
Merci beaucoup. Du coup, on n'a plus besoin de se présenter. Ça a été fait parfaitement bien. Merci, M. Strumont. Un petit mot, bonjour à tous, sur Famille Solidaire. Donc, voilà, comme vous le savez, on vient de France. C'est la plus belle région du monde qui est l'Alsace et la ville de Mulhouse. Famille Solidaire, c'est un groupe, un petit groupe associatif qui est composé donc d'une foncière qui existe depuis 5 ans, une association, un fonds de dotation et un centre de formation. Et l'ensemble de ce petit groupe associatif a une vocation, c'est celle de pouvoir offrir la possibilité à des personnes fragilisées par l'âge ou le handicap de pouvoir vivre avec et comme tout le monde dans un habitat partagé et accompagné. Alors, Madame Bodine tout à l'heure parlait de diversité de solutions d'habitat, hein. Elle les a quasiment toutes citées. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que Famille Solidaire répond à un type de solution alternative d'habitat qui existe parmi donc de nombreuses multiples autres solutions. Donc, parmi les activités de Famille Solidaire, on a plusieurs, je dirais, un double cœur de métier qui est celui d'accompagner des porteurs de projets dans la conception de leur propre habitat partagé de façon opérationnelle et en ingénierie sociale. On intervient partout en France, on a des projets un petit peu partout. Et puis, on a comme objectif de co-construire une coopération entre les différents acteurs qui apportent chacun un morceau de la réponse autour de ce que nous, on appelle un écosystème. Voilà. Et puis, c'est une entreprise solidaire qui se finance en partie grâce à l'épargne solidaire. Et avec le discours de M. De Fourny, maintenant, l'économie sociale n'a plus de secret pour vous. Voilà. Alors, un habitat partagé accompagné, c'est quoi? Ça répond notamment à plusieurs problématiques. Ça permet notamment à toutes les personnes qui vivent dans cet habitat d'être des locataires de leur domicile privé, de vivre avec et comme tout le monde parmi les autres, d'offrir aussi une réponse et une opportunité pour toutes les personnes qui notamment sont hébergées dans des structures médico-sociales ou qui sont dans les structures sanitaires ou hospitalières, d'avoir une autre possibilité de logement. C'est également une solution de répit à long terme et pérenne pour les proches. Et puis, effectivement, la possibilité de vivre dans un chez-soi qui est un domicile privé dans lequel on a, j'aurais tendance à dire, des vrais meubles, des vraies lampes au plafond et qui ne donne pas une impression hospitalière. Ensuite, effectivement, la possibilité de développer également des liens, on le verra par la suite. Et puis, une possibilité aussi d'adapter l'habitat dans le temps en fonction des pathologies, en fonction des séquelles acquises et des éventuelles progressions dans le temps. Alors, on verra également plus dans le détail quel est le... Tu peux passer à la slide d'après, merci. On verra plus dans le détail en quoi ça consiste. Exactement, très concrètement, ça peut être une maison, un appartement avec un jardin ou une terrasse, généralement sous forme de colocation ou d'habitat groupé. Si on parle de colocation, et là on va vous parler d'un projet en particulier qui s'appelle CAHUT, c'est une grande colocation, donc on aura une chambre privative et puis des lieux de vie qui sont communs, un grand espace de vie. Et puis des locaux techniques. Voilà, mais je vais passer la parole à Jean pour l'explication du projet immobilier de CAHUT.
Alors CAHUT, c'est un projet, vous voyez que la première lettre de CAHUT, c'est un K, parce que c'est un projet qui s'est construit à Strasbourg sur l'ancien site industriel de la brasserie Cronenbourg, qui est un site énorme de 5 hectares, qui a été réaménagé par l'aménageur public en éco-quartier. Ce site, il a été partagé entre différents acteurs de la création d'habitat, notamment des promoteurs immobiliers, des bailleurs sociaux, et puis une des parcelles du quartier a été réservée à ce qu'on appelle en France l'habitat participatif. C'est une habitude qui se développe de plus en plus sur notre territoire et plus largement en Europe. C'est la possibilité de permettre à de futurs habitants de réfléchir ensemble la façon dont ils veulent vivre leur habitat individuel, mais aussi dont ils veulent vivre leur immeuble, leur village, en fait. Et donc, ce projet de Strasbourg, il a été lancé par quelques personnes qui se sont dit « moi, j'achèterais bien un appartement pour y habiter » ou pour le louer, pour faire un investissement locatif, ou pour y installer mes bureaux. Et à cette période, j'étais présidente donc, de l'Association des familles traumatisées crâniens, et on était en train de créer différents habitats à destination de personnes cérébro-lésées, des habitats en colocation, des habitats regroupés avec des parties communes, comme l'expliquait Bernadette tout à l'heure. Ce projet-là, il a très vite suscité l'intérêt de l'association parce que il permettait de répondre à un des enjeux majeurs face à l'accompagnement des séquelles liées aux lésions cérébrales acquises, c'est la question du lien social. Je pense que si aujourd'hui on s'est lancé dans cette création d'habitat partagé, c'est parce que l'habitat est effectivement un lieu de sécurité qui permet à la personne de se poser, de construire un véritable projet, mais c'est aussi le lieu de toutes les sociabilités. Et donc ce projet, il a débuté en 2010-2011 par quelques habitants qui avaient envie de faire construire leur immeuble, ce qu'on appelle aussi l'autopromotion ou les coopératives d'habitants notamment. Donc ce processus, il va d'abord nécessiter un temps important d'imagination des futurs habitants pour se dire qu'est-ce que j'ai envie de construire ? J'ai une enveloppe architecturale, vous voyez l'enveloppe en bas de slide, qui est une enveloppe intermédiaire. Au début, on avait un cube où on savait qu'on pouvait construire en gros 1300 m². Et à la différence d'une promotion immobilière, il n'y avait pas le tampon du F2 qu'on reproduisait à chaque étage parce qu'il y avait la gaine technique qui descendait jusqu'en bas, ni le tampon du F3. Et en fait, le processus a permis à chacun de créer son propre appartement en fonction de ses habitudes de vie, en fonction de ses envies, avec des plus ou moins grandes salles de bain, avec des immenses terrasses, comme vous le voyez sur la partie sud. Et surtout, ce qu'il a permis, c'est de créer une forme de cohésion sociale entre ses futurs habitants. Donc, le processus s'est étendu sur 2 ans. Il a fallu trouver tous les habitants de l'immeuble, personnaliser tous les plans, arbitrer et choisir ensemble quelles étaient nos priorités, puisque souvent dans l'habitat participatif, on a l'image de gens qui sont très engagés dans le monde de l'écologie, qui veulent faire des bâtiments actifs, donc qui produisent même de l'énergie. Mais parfois avec beaucoup de contradictions en disant ben, on ne veut pas payer le terrain, on veut que ça coûte le moins cher possible. Là, c'était un processus beaucoup plus pragmatique. Chaque habitant venait au stade du projet, au stade de développement du projet où nous étions, et venait dire ben, moi je peux acheter 50 mètres carrés, moi je peux acheter 70 mètres carrés, puis ben, je veux aménager l'intérieur. Et puis on a réfléchi aussi sur les espaces communs. Parce que c'est un bâtiment qui a la particularité d'avoir de nombreux services communs entre les habitants. Vous le voyez sur l'image de droite, on a une toiture terrasse de 240 mètres carrés qui est entièrement accessible à tous les habitants de l'immeuble, que ce soit le locataire du studio comme la famille qui a deux enfants. Et c'est un lieu de vie qui est investi par l'ensemble des habitants en fonction de leurs envies, sans obligation. Mais qui est surtout investi parce qu'il y a eu toute cette création de liens sociaux. Évidemment, je vous passe les complexités parce que c'est 0,01% de la création de logements en France. Donc vous imaginez bien qu'on ne rentre pas dans les cases. Donc il faut trouver des solutions. Et quand le bâtiment a été plein, on a pu commencer à construire. Le résultat, c'est aujourd'hui 23 appartements ou locaux professionnels, essentiellement quand même de l'habitat. Il y a 20 lots qui sont des lots d'habitation détenus par 20 propriétaires qui habitent ou qui le louent. Dans ce projet-là, l'association a représenté l'intérêt des personnes cérébrolésées. Donc on a travaillé sur la création d'une colocation pour personnes cérébrolésées au rez-de-chaussée, pour qui accueille donc 4 personnes, et puis un petit appartement F2, pour la petite histoire, qui a pu être achetée parce que dans ce projet, en autopromotion, il faut 100% des acheteurs. Dans la promotion immobilière, vous vendez 30% des lots, vous commencez à construire et vous commercialisez le reste. Là, pour pouvoir le créer, ce projet, il fallait que 100% des lots soient vendus. Et il restait un petit lot, premier étage, de 46 mètres carrés, qui ne trouvait pas preneur. Et en fait, les 8 habitants de l'immeuble ont accepté de mettre 100 000 euros dans la foncière pour que Famille Solidaire achète ce deuxième appartement qui aujourd'hui est occupé par un travailleur d'ESAT qui bénéficie de tous les services et de toute l'ingénierie et tout l'écosystème actuel. Évidemment, il y a des effets collatéraux. On a un syndic de copro bénévole, ce qui est très rare dans un immeuble de cette taille, puis une association qui s'occupe aussi de maintenir ce lien social entre les habitants. Donc je vous parlais des espaces communs, un toit terrasse avec une salle collective de 35 mètres carrés qui peut être empruntée par chaque habitant pour 10 euros la journée. Une buanderie collective avec des machines industrielles à pièces. Chacun paye pour l'usage de la machine et tout le monde paye pour l'entretien. On a donc nos deux appartements qui fonctionnent au milieu de tous les autres et pour lesquels, à ce jour, donc ça fera bientôt 3 ans que l'immeuble est ouvert, il n'y a pas de vacances locatives. On n'a pas de problème à trouver des personnes. En termes d'accessibilité financière, on est évidemment dans du logement social, donc les locataires ont un petit loyer. Il est également notable de dire que l'immeuble a été construit avec nous. Donc tous les locaux ont été revisités, même les locaux communs, pour permettre aux personnes les plus vulnérables, qui ont des troubles cognitifs et qui ont des incapacités physiques aussi, d'y accéder, sans forcément aller dans une domotisation à outrance, puisqu'on savait pertinemment que la présence humaine dans ces habitats allait être primordiale. Côté environnement, j'y reviens pas, mais on est en géothermie, on a un magnifique toit terrasse offert à tout le monde, qui est un lieu très investi. Et puis un service d'autopartage, donc on fait de l'autopromotion et puis on se dit on va faire de l'autopartage. Donc l'autopartage, c'est le principe de partager sa voiture avec d'autres pour une heure, une semaine, à payer à l'usage et au kilomètre. Donc c'est une société coopérative qui a installé donc un véhicule comme sur l'ensemble des logements qu'on a construits sur Strasbourg. L'appartement, il ressemble à ça. Alors là, vous devez très bien le voir puisque l'écran est grand. Donc, chacun dispose d'une chambre individuelle qui fait entre 12 et 14 mètres carrés. Chaque colocataire partage sa salle de bain avec un autre. Il y a un petit local en haut que vous voyez qui est le local de veille de nuit, donc qui permet aux auxiliaires de vie de se reposer, mais aussi d'installer tout le nécessaire pour la vie quotidienne, du pilulier jusqu'à la gestion de l'argent de poche, en passant par tous les dossiers administratifs qui peuvent être nécessaires. Et puis ensuite, un espace de vie commun très large, ouvert sur une terrasse et avec un petit jardinet et une possibilité donc de vivre finalement comme chez soi. Et puis au premier étage, un T2 qui est beaucoup plus simple encore, une chambre, un grand salon et puis une petite salle de bain adaptée. Évidemment, dans tous ces projets-là, on se doit de respecter, je dirais, les normes qui vont très rarement assez loin par rapport aux besoins des habitants. Et donc, on a réfléchi systématiquement sur l'ensemble des habitats que nous avons réalisés et que nous créons à rendre les choses les plus douces possibles, les moins stigmatisantes possibles pour que les personnes vivent chez elles et dans des structures de petite taille comme le recommande l'ONU.
Je prends le relais sur la partie économique et sociale. Donc, on a parlé tout à l'heure d'écosystème. Effectivement, le projet CAHUT s'inscrit complètement dans cet écosystème de quartier, mais on a évoqué aussi tout à l'heure l'aspect non marchand qui faisait marcher l'aspect marchand et réciproquement. On est vraiment aussi dans cette logique de créer de l'emploi dans le secteur médico-social, d'avoir la proximité des commerces dans ce joli quartier et des services, d'avoir l'accès facile des paramédicaux et de tous les services sanitaires, sociaux et médico-sociaux autour de la maison. Et puis on parlait d'épargne solidaire tout à l'heure, on a collecté 185 000 euros sur un projet qui a coûté 560 000. Sur l'aspect social, on évoque l'inclusion sociale de ces personnes atteintes de lésions cérébrales et également le fait qu'elles puissent être ancrées complètement dans leurs activités quotidiennes, aussi bien, pour reprendre également les propos de ce matin de M. Belliot, de l'intérieur, de la vie de l'intérieur et de la vie de l'extérieur. Il y a une véritable interaction qui se fait sur les deux dimensions. Voilà, le but, monsieur intervenait tout à l'heure en posant une question, en disant on a besoin de se sentir utile. L'idée, c'est également de pouvoir les aider à développer des activités simples pour qu'ils se sentent utiles au quotidien. Alors, on évoquera pendant une petite vidéo que vous allez voir, on parlera notamment des saveurs de CAHUT. Alors, les saveurs de CAHUT, c'est quoi? C'est comment est-ce que les habitants de cette colocation peuvent réaliser ensemble, à l'aide de l'accompagnement médico-social et du SAMSA, donc, des recettes qu'ils mettent à disposition de l'ensemble du bâtiment et de l'immeuble. Et les recettes, ça peut être des soupes cuisinées avec un appareil. Je ne sais pas si c'est comme en France, mais après il faut citer trois marques. Alors, voilà, un appareil culinaire hautement réputé, et puis également d'autres types de services qui se font entre, je dirais, bon voisinage, notamment sortir le chien, aller arroser les plantes quand d'autres personnes de l'immeuble partent en vacances, ou nourrir le poisson rouge. Voilà, ce sont toutes ces interactions intérieures-extérieures qui s'opèrent. Alors, pour vous parler plus particulièrement des personnes qui sont donc les colocataires de CAHUT, on a donc 5 personnes qui sont atteintes de lésions cérébrales, 2 suite à un traumatisme crânien, une personne atteinte d'une sclérose en plaques, une personne qui a subi un AVC et un syndrome de Korsakoff, avec une tranche d'âge donc qui se situe de 38 ans à 50 ans. Voilà, avec des noms fictifs bien évidemment, mais ce qu'il faut retenir, c'est que dans cette colocation, il y a un projet individuel géré par le SAMSA, et bien sûr, il y a un projet de vie collectif également qui s'opère, et c'est ça aussi l'interaction entre l'intérieur de ce qui se passe quand on est un peu chez soi et un peu chez les autres. Voilà. Alors, il n'existe pas dans cette colocation de référente de maison. On va voir qui intervient, ce sont les services d'aide à la personne qui intervient, mais il n'y a pas de titre de référente de maison ou de gouvernante comme ça peut exister dans d'autres dispositifs. Néanmoins, il y a ce travail de coordination qui se fait avec les relations avec les familles, avec les différents services, les paramédicaux, les rendez-vous qu'il faut prendre, la gestion de l'emploi du temps, l'organisation des courses, etc. Cette coordination est assurée par un service d'aide à la personne. On reviendra dessus aussi également tout à l'heure. Au niveau du loyer et des charges, on a une mutualisation. On met une cinquantaine d'euros en commun pour pouvoir financer les charges locatives, donc l'eau, le téléphone, l'électricité et le mobilier. Et puis on paye un loyer qui est autour de 400 euros maintenant. Et donc ça nous fait en fait une possibilité dans ce pot commun de vivre en colocation. Voilà, c'est classique, mais c'est géré par un service d'intermédiation locative qui est une association et qui sert en fait à faire le relais entre le propriétaire, nous, Famille Solidaire, et le locataire. Ensuite, ces colocataires payent aussi les courses et les repas et bien évidemment, ils constituent leur menu ensemble en fonction de ce qu'ils aiment manger. Ils choisissent leur menu, ils contribuent à la cuisine en fonction de leurs envies et de leurs désirs et de leurs capacités. Et puis, ils collectent environ 150 euros par mois par personne pour pouvoir payer justement ces charges alimentaires et les produits d'entretien. On a une trentaine d'euros également qui servent à être collectés pour pouvoir remplacer un électroménager qui tombe en panne, par exemple. Et puis on parlait de l'aide humaine. Alors c'est un service d'aide à la personne qui va donc aider aux actes essentiels de la vie quotidienne et qui est donc présent de 6h du matin à 23h, ce qui permet en fait, en mutualisant les aides et les ressources de chaque colocataire, de pouvoir financer ces aides-là. Après 23h, on a un système de téléalarme et d'astreinte qui est géré par le SAMSA et un système de téléalarme qui fonctionne, qui permet déjà d'appeler pour voir si tout va bien et puis d'intervenir en cas de besoin. Voilà. Ce service d'aide à la personne donc, qui intervient, ce sont donc des auxiliaires de vie. On estime à peu près entre 4 et 5 personnes en équivalent temps plein qui interviennent dans cette maison. Et puis l'accompagnement médico-social est fondamental, aide à la création justement de ces projets de vie communs. La preuve en image avec cette vidéo qui résume à peu près tout ce qu'on s'est dit là maintenant.
Un cube de bouillon de volaille. Bon, bien sûr. 300 grammes de crevettes crues. Alors, mixer l'oignon, l'ail et les poivrons. 3 secondes.
C'est sympathique d'être ensemble, de dire tiens, aujourd'hui, on va peut-être préparer ça à manger. Tiens, moi, je vais faire ça, tu peux t'occuper de ça. Puis chacun donne un coup de main et puis le repas se fait plus rapidement.
Voilà.
À la maison, je cuisinais pas au fait. Et c'est depuis que je suis là, je participe avec tout le monde. Pour préparer le café, ça j'avais jamais fait avant. Avec les AVS, je me dis c'est au fait des anges.
S'il nous arrive quelque chose, on a tous quelqu'un pour appeler les urgences, le SAMU, voilà. Même la douche, ça me dérange pas que quelqu'un vienne me dire je peux rester avec vous pour la douche. Je dis oui, on sait jamais si je glisse. J'ai toujours les chevilles qui sont gonflées, donc ça fait du bien de savoir qu'il y a quelqu'un à porter ou qui vient me frotter le dos. Bon, voilà. C'est quand même plus agréable d'être dans un appartement qui est quand même spacieux puis agréable. En plus, on peut se déplacer facilement. Il y a quand même pas mal de choses à côté, entre le petit magasin, la boulangerie, la pharmacie, les médecins qui sont à côté. Donc, c'est quand même plus agréable d'être avec de la compagnie. Comme ça, chacun raconte un petit peu ce qu'il a fait, ce qu'il a vu. Ou dit, tiens, si je mettais ça aujourd'hui, qu'est-ce que t'en penses? Tu crois que ça peut faire plaisir? Puis voilà, aujourd'hui, t'as pas mis de boucle d'oreille. C'est vrai qu'une fois j'avais pas mis de boucle d'oreille. Ah, mais t'as pas mis de boucle d'oreille aujourd'hui. Ça veut dire que la personne fais attention à ce que je porte. Et je trouve que c'est sympa. Et puis c'est quand même plus agréable que d'être toute seule dans un appartement.
Est-ce que vous aviez apprécié d'avoir une soirée comme ça avec le voisinage? C'est quelque chose que vous souhaitez
oui,
encore?
Parce que on les a vus, on a pris une petite collation avec eux le soir où on s'est présenté en fait. Voilà, nous on habite au deuxième, nous on habite au troisième. Voilà, c'était sympathique de savoir comme ça quand on se croise dans les escaliers ou dans l'ascenseur, ben on sait qui est qui. Ils prennent de nos nouvelles aussi. Ils disent « Ah, bah alors, vous allez bien ? Tiens, ben, y en a qui savent que le vendredi, je vais voir ma fille. Alors, voilà. »
En étant ici, ça permet déjà de grandir un peu. D'être autonome, quoi. Et vivre ma vie, quoi. Bon appétit. Hein.
Vivre sa vie, je crois que ça résume bien cette vidéo. Voilà, merci beaucoup. Alors, est-ce que vous avez des questions ? On pourrait détailler beaucoup plus hein, après. On pourrait parler de beaucoup de choses, notamment sur ce qui se passe dans la vie dans la maison. Mais
c'est une question peut-être élémentaire, mais est-ce que la vie communautaire pour des personnes cérébrolésées ne présente pas des difficultés particulières? Ce n'est déjà pas si facile de vivre communautairement. Et quid de ces personnes?
Je vais répondre, puis tu compléteras. J'ai eu l'occasion d'observer 17 colocations à Bordeaux dans une association de familles traumatisées crâniennes qui fait la gestion locative justement de ces habitats. 17 colocations dans lesquelles il y avait des personnes qui étaient à 2-3 personnes par appart jusqu'à 5-6. Il y a plusieurs problématiques. Moi, j'ai travaillé particulièrement sur les soucis de cohabitation entre ces personnes-là. Plusieurs fléchages sont intéressants. La préparation d'un service de soins et de réadaptation avec une préparation, par exemple, dans un appartement thérapeutique permet déjà aux colocataires futurs d'apprendre à se connaître entre elles et puis également à apprendre les interactions sociales. Souvent, quand ces personnes-là ont eu ce temps de préparation dans un appartement thérapeutique, intégrer un habitat, c'est relativement facile parce qu'elles se connaissent. La plus grosse difficulté, c'est notamment quand une des personnes décide de partir, de s'installer par exemple avec son conjoint ou de retrouver sa famille ou un autre projet de vie. Donc il faut remplacer la place libre dans l'appartement. Là se pose la question de savoir jusqu'où est-ce qu'on va pour trouver des compatibilités entre les différents locataires, sachant que quand on a effectivement des troubles tels que les lésions cérébrales avec des syndromes frontales par exemple, et qui font qu'on a, alors je vais vous citer des exemples précis, une personne qui est extrêmement maniaque et qui a besoin de se repérer avec l'ensemble de ses affaires, qui va manger en face d'une autre personne qui elle est très désordonnée, quand à table la petite cuillère ne se trouve pas précisément entre le verre et l'assiette, ça peut créer des véritables problèmes. Donc le travail de régulation de l'auxiliaire de vie est fondamental, de faire en sorte également de questionner les personnes le plus possible, de leur laisser le soin de s'exprimer à leur façon, tout en ne se substituant pas à leur réponse qui peut être quotidiennement différente en fonction de l'humeur, des envies et les interactions entre elles. Donc cette régulation, elle doit être faite le plus possible par les professionnels que vous êtes. C'est pas simple tous les jours, il y a des trous dans certaines portes, Et parfois, il y a des moments plus difficiles que d'autres, mais effectivement, cette connaissance, cette confiance qui se fait aussi avec les professionnels permet de créer le lien et de savoir exactement ce qu'il faut faire et pas faire dans le temps, tout en restant quand même à l'écoute de l'évolution de la personne.
Je rajouterais juste que souvent les personnes cérébro-lésées rencontrent peut-être plus d'écoute de la part de leurs pères qui ont vécu la même difficulté, qu'ils peuvent se reconnaître les uns les autres dans ce qui peut être difficile dans l'existence et aussi dans les capacités qui sont conservées. Donc il y a cet intérêt-là, il y a aussi un intérêt qui est le préambule, je dirais aussi, de l'habitat partagé, puisque ça a été très souvent initié par des familles. C'est qu'en France, on a à peu près 5% des personnes vulnérables qui sont accueillies en établissement d'hébergement. 95% sont au domicile individuel ou familial. Et cette solution, elle n'est pas parfaite. Ce qui serait parfait, c'est que l'accident ne soit jamais arrivé. Mais cette solution, elle permet de se projeter dans un futur sans ses parents, de se projeter dans une vie où on a une capacité de décision plus grande. Et je crois que c'est pas plus simple qu'une colocation d'étudiants, c'est pas plus simple que 3 semaines de vacances chez sa belle-mère. Et c'est juste une solution parmi d'autres. Voilà.
Savoir comment vous sélectionnez les colocataires.
Alors, y a peut-être deux parties dans la réponse. La réponse, c'est quand la colocation ouvre, y a un mode de sélection qui est communautaire. En fait, quand on a ouvert les deux premières maisons sur Strasbourg, on avait 20 candidats pour 10 locataires. Et donc, on leur a permis de se projeter dans le fait de vivre avec d'autres, mais sans forcément projeter directement leur situation personnelle. Donc on a utilisé le théâtre forum pour les mettre en situation de dire, on va vous demander de jouer ce qui peut se passer dans un domicile privé, par exemple, comment on choisit le programme télé dans un couple. Donc vous le jouez devant les autres, et ça permet de prendre conscience qu'il y a des concessions à faire. Ça permet aussi d'être un lieu d'observation par les travailleurs sociaux qui accompagnent les personnes pour dire là j'ai remarqué que peut-être que cette personne irait mieux avec celle-là. C'est aussi un grand lieu de projection de nos fantasmes, parce que on est toujours très très inquiet de se dire comment ça va fonctionner de mettre 4 ou 5 personnes qui ont des troubles du comportement, qui ont des troubles de la mémoire ensemble. C'est vrai que ça paraît un peu dingue, et après ça marche pas toujours. Donc des fois, on ouvre des collectifs et puis au bout de 3 semaines, un des locataires, dès qu'il pourra en coller une, que ce soit verbalement ou physiquement à son voisin, il le fera. Et donc c'est là que tout l'écosystème médico-social a son sens pour accompagner ces questions-là, peut-être proposer aux personnes de changer de logement puisqu'elles sont chez elles. On ne décide pas une fin d'admission. Elles ont un bail, il y a des lois, donc elles sont chez elles. Et donc c'est toute la complexité de cet accompagnement. Et puis après, il y a le renouvellement, c'est-à-dire quand un locataire change de projet de vie, là on fait en fonction très souvent aussi des urgences. C'est-à-dire que la filière, j'allais dire la plus simple, si tant est qu'il y ait quelque chose de simple là-dedans, c'est pour les personnes qui sortent de centres de rééducation. Parce qu'il n'y a pas eu ces 10 ans ou ces 15 ans à domicile, ça peut aussi être par certains côtés très confortable le domicile. On a souvent des aidants qui se plient en 4, qui font les 4 volontés de la personne. Et l'habitat, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut quand même faire des choses. Et donc, il y a une complexité plus grande à maintenir l'équilibre quand il y a un changement de locataire. Mais en général, ça se passe plutôt bien parce que le groupe existant va implicitement amener des règles collectives et puis une forme de respect, je pense, d'amitié, d'amour aussi entre les locataires qui font que des fois ça pète, mais ils ont quand même une grande capacité de résilience.
Encore une question. Et est-ce que vous réfléchissez à mélanger les types de handicap? Parce que vous parliez surtout troubles comportementaux, cognitifs. Est-ce que ce sont des habitats qui s'adressent vraiment... est-ce qu'ils ont tous des troubles cognitifs ou bien il y a un mélange ou subtil ou...
Ils ont tous des troubles cognitifs importants. Pour beaucoup d'entre eux, donc ils mettent en commun leur aide humaine. Hein, donc le préalable en France pour avoir de l'aide humaine, c'est d'arriver à prouver qu'on en a besoin. Et en l'occurrence, il y a beaucoup de gens où, quand ils sortent du logement tout seuls, on n'est pas sûr qu'ils arriveront à retrouver le chemin. Donc, il y a toute cette question de l'évaluation, il y a toute cette question de l'équilibre aussi, de se dire, voilà, j'ai 17 heures aujourd'hui d'heures mutualisées entre les personnes. Quand je vais changer de locataire, je vais essayer de trouver quelqu'un qui a à peu près le même volume horaire. Donc ça s'adapte bien, je dirais, à un public qui... est pour moi un public extrêmement complexe dans le monde du handicap, hein, les personnes cérébro-lésées, handicap physique, sensoriel, handicap cognitif, etc. Dans les autres projets qu'on conduit sur le territoire, on est en train de travailler sur des appartements à destination de personnes qui ont des maladies neurodégénératives, dont Alzheimer. On travaille sur des projets par rapport à l'autisme. Je pense qu'il n'y a pas de... La limitation, elle ne vient pas du public. La limitation, elle vient des moyens qu'on peut mettre à disposition pour accompagner ces publics. C'est ça la limite d'un territoire. C'est-à-dire que quand vous faites un projet en milieu rural, par exemple, la limitation, ça va être il n'y a pas de transport à la demande. Il n'y a pas de bassin d'emploi pour employer les auxiliaires de vie. Il y a peu de commerces et de services en proximité. C'est plutôt ça qui va induire la limitation de création d'un habitat partagé que la complexité du public. Bordeaux notamment, il y a deux maisons qui fonctionnent à destination de personnes en état possi-relationnel. Donc c'est possible, quel que soit le niveau de handicap. Et globalement, il y a une centaine d'initiatives en France. Si vous passez de l'autre côté du Rhin et que vous allez en Allemagne, il y a 3700 colocations pour personnes âgées désorientées. Le modèle a fait ses preuves et il peut fonctionner pour tout le monde. Pour les étudiants aussi d'ailleurs.
Merci beaucoup pour votre présentation. On voit dans les profils que vous avez montrés pour la maison CAHUT que ce sont des personnes relativement jeunes, qui avaient certainement aussi une famille, peut-être des enfants, des conjoints. Comment est-ce que vous travaillez cette question-là avec les personnes par rapport à le lien qu'ils peuvent garder avec leur famille ?
Alors, le lien avec les familles est conservé pour celles et ceux qui ont la possibilité d'avoir des familles qui sont relativement proches. On n'a pas beaucoup parlé de la domotique, mais c'est vrai qu'on a également tout un tas aujourd'hui de technologies qui nous permettent quand même de garder le lien avec la famille, même quand elle est plus loin. Dans les questions qui sont souvent posées aux colocataires et que j'ai eu l'occasion de leur poser également, sur le sentiment d'être chez soi, on a parfois, la plupart du temps, la réponse, c'est de dire « chez moi, c'est ici ». Chez mes parents, c'est chez mes parents, même si avant, c'était chez moi, chez mes parents. Donc, c'est rare ceux qui disent « chez moi, c'est toujours encore chez mes parents ». Alors ça n'empêche pas effectivement les allers-retours. Notamment là, on parlait de Bordeaux. Il y a donc l'appartement pour les quatre personnes en état post-relationnel. Il y a une personne qui rentre, qui prend le train et qui est accompagnée et qui rentre tous les week-ends chez ses parents. Et on voit aussi que l'interaction sociale, qui peut paraître extrêmement complexe, hein, vu également le type de séquelles, cette interaction, elle s'opère parce que quand le dimanche soir tout le monde rentre à la maison, c'est festival quoi. On sent qu'il y a une ambiance qui est différente. Le lien avec les familles est conservé, il est assuré également par ce travail de coordination avec l'équipe, les auxiliaires de vie et les équipes médico-sociales, pour que chacun retrouve sa place aussi. Mais en ce qui concerne le travail d'aidant de la famille, ce qui lui reste comme fonction d'aidant au-delà de cette séparation de vie, ça je vais laisser Jean en parler.
Bon, on a eu, quand on a commencé à développer les habitations Strasbourg, on a eu cette attention particulière, puisque moi je suis conjoint donc d'une jeune femme traumatisée crânienne, on a deux enfants, et cette question de l'aide à la parentalité, on l'a abordée dans l'association. On a accompagné des papas, essentiellement, qui avaient des gamins entre 5 et 10 ans, et pour essayer justement de recréer ce lien, et on a poussé la logique en se disant, bon, on va faire des appartements à destination de soutien à la parentalité. En fait, on a projeté une fois de plus nos désirs, nos ambitions. Le programme a bien fonctionné hein, d'accompagnement. C'était les aider à aller au cinéma avec quelqu'un, avec un tiers qui pouvait organiser, parce que c'était des gens qui avaient des forts troubles cognitifs. Par contre, les trois appartements T3 qu'on a ouverts à destination de parents qui voudraient accueillir leurs gamins, ben, ça n'a pas fonctionné parce que la complexité, elle venait d'ailleurs. En fait, elle venait d'abord d'un système social où quand il y a des enfants, ben, tout de suite, il y a 42 travailleurs sociaux autour. Que pour prendre une décision, quand il y a 10 services médico-sociaux qui interviennent autour d'une personne, ben, on ne la prend pas parce qu'il n'y a personne qui prend le lead. Et donc on a adapté. Voilà, on a une maman qui habite dans un collectif, et puis on a loué un studio à l'étage pour quand les gamins viennent, pour qu'ils puissent loger à proximité de leur maman, pas forcément dans son appartement. Donc c'est vraiment du sur-mesure. Voilà.
Je peux ? Oui, j'ai une question gigogne en fait. Bon, donc deux. Ouais. J'ai pas bien compris qui sont les véritables propriétaires de chaque appartement. Est-ce que ce sont les habitants eux-mêmes ?
Alors, l'autopromotion, on crée une société coopérative de construction-vente. Donc, chaque futur habitant devient actionnaire de cette société qui construit l'immeuble. Un an après la livraison de l'immeuble, ça devient une copropriété traditionnelle. Donc, tous les gens qui se sont engagés dans la société au démarrage de construction sont devenus propriétaires et ont X tantième du bâtiment. Et alors, soit ils l'habitent, soit ils le louent. On a des gens qui font du gîte Airbnb, on a des gens qui le louent à des familles ou à des jeunes actifs. Mais oui, à la fin, il y a quelqu'un qui devient propriétaire. On n'est pas tout à fait dans le cadre de la coopérative d'habitants, qui est une autre forme de propriété, mais ça y ressemble quand même beaucoup.
Sur cette colocation, c'est CAHUT, donc la colocation, c'est Famille Solidaire qui est propriétaire.
Donc, ma deuxième question a un petit peu changé, mais ce n'est pas très grave. Je me demandais comment une société marchande comme la BNP, par exemple, puisqu'on en a parlé, Fortis, la BNP, tout ça, pouvait investir ou être intéressée par ce type d'idées, plutôt que de les voir en permanence construire des bureaux et des bureaux et des bureaux et des bureaux et proposer un investissement rentable à des clients de la même banque. Voilà.
Alors... En France, il y a la loi Fabius qui a instauré ce qu'on appelle les fonds 90-10, l'épargne salariale. Donc beaucoup de grandes entreprises ont des fonds d'épargne salariale sur lesquels tous les salariés mettent un peu d'argent pour leur future retraite et que l'employeur abonde. Ça représente en France 97 milliards d'euros. Donc sur 97 milliards d'euros, vous faites le calcul, 90 investis dans l'économie traditionnelle, SICAV, fonds communs de placement, trading haute vitesse dans les pays émergents, etc. Et puis 10% au titre des investissements socialement responsables, le prolongement de la RSE. Ces 10%-là en France financent énormément d'entreprises et d'associations de l'économie sociale et solidaire. Ils ne cherchent pas forcément en premier lieu le rendement, même si ça reste quand même une tentation très forte. Et donc, ils ont investi dans des foncières comme Habitat Humanisme, qui fait du logement social pour des personnes éloignées de l'emploi, comme la foncière Chenley, qui fait du logement social en milieu rural, comme Enercop, qui fait du photovoltaïque. Ils acceptent un rendement minimum. Mais c'est un peu le Windows dressing dont vous parliez tout à l'heure. On se donne un petit peu bonne conscience en se disant, bon, ok, on spécule sur le blé et on crée la famine en Afrique, mais regardez, on fait quand même des logements pour les traumatisés crâniens. Donc voilà, je le dis parce qu'il n'y a pas de banquier dans la salle, enfin j'espère pas. Mais c'est un peu l'esprit des fonds 90-10 et c'est ce qui permet aujourd'hui de développer aussi les entreprises d'insertion, les ESAT, qui sont, enfin toutes les entreprises solidaires en France peuvent avoir recours à cet argent, soit directement auprès des banques, soit auprès de réseaux comme France Active ou d'autres réseaux économiques d'utilité sociale.